L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Quand on vit en France aujourd'hui, c'est difficile de ne pas parler des gilets jaunes ou en tout cas de ne pas s'intéresser au sujet, mais aussi de comprendre l'impact des réseaux sociaux dans ce mouvement, qui n'est pas vraiment un mouvement, d'ailleurs c'est ce dont on va parler avec Fabrice Epelboin, qui est professeur à Sciences Po, et on va parler du côté sombre ou de la dark side des réseaux sociaux et de la manière de les utiliser. On va parler un peu de l'état de la France aussi. C'est une conversation passionnante, évidemment. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis avec Fabrice Epelboin.
Bonjour.
Je ne me trompe pas. Qui est enseignant à Sciences Po sur les parties obscures des réseaux sociaux et donc sur leur usage politique. Et là, on a un sujet qui s'y prête plutôt bien avec les gilets jaunes.
Totalement.
C'est quand même marrant d'enseigner à Sciences Po l'usage négatif ou obscur des réseaux sociaux, non ? Enfin, je ne sais pas.
Alors j'ai eu la chance d'être intégré à Sciences Po par un professeur qui s'appelle Dominique Boulier, qui m'a donné une très grande liberté et qui a trouvé ce genre de sujet très intéressant dès le départ. Donc j'ai commencé sur deux corps d'enseignement, la surveillance et la surveillance de masse et son impact sur les gouvernances en général, démocratie ou dictature. J'enseigne toujours ça. Et puis très rapidement j'ai ajouté à ça le côté obscur des réseaux sociaux parce que très rapidement vers 2011-2010, et puis à la suite du printemps arabe évidemment, il devenait évident pour un petit groupe de monde à l'époque qu'il y avait une façon pas forcément très honnête d'utiliser les réseaux sociaux de façon à manipuler l'opinion publique et créer ces fameux mouvements sociaux qui aujourd'hui nous sautonnaient, mais qui datent pas d'aujourd'hui. Ou disrupter une campagne politique, ce qui devient évident aujourd'hui avec Trump, mais en fait la première campagne présidentielle largement disruptée par les réseaux sociaux, c'est 2012 et c'est la Corée du Sud. Donc ça date pas d'hier, quoi.
Et d'ailleurs, sur ce podcast, j'ai reçu Guy Philippe qui parlait de la manipulation à travers Facebook principalement. Mmh. Sur les gilets jaunes, pour toi, donc c'est une organisation qui est plutôt organique, c'est-à-dire qu'en
totalement
fait,
organique. À ce stade, vraiment totalement organique.
C'est pas structuré.
Il n'y a pas plus de Russes que de beurre en branche derrière. c'est l'histoire d'un contenu d'une fille dans un coin qui est tombée au bon endroit au bon moment, a résonné avec tout un tas d'autres personnes et qui a mené à une espèce de décision plus ou moins collective ou de proposition d'action qui a été adoptée par la masse. C'est le principe de base qu'on peut retrouver typiquement dans Anonymous. Hein. C'est le mode de suggestion d'une action qu'on trouve au sein d'Anonymous.
Et alors du coup, pour toi, c'est quoi, alors pas le rôle des réseaux sociaux, parce qu'en fait, de toute façon, c'est structuré sur Facebook et Google Maps, donc le rôle, il est évident. Mais quand tu parles de la dark side, ou en tout cas des côtés obscurs, à quoi tu fais référence?
Il y a deux façons d'utiliser les réseaux sociaux dans une optique politique. Il y a une façon qui est totalement nouvelle, assez innovante et très difficile à séduire, à saisir, c'est ce qu'on a vu avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a vu avec le printemps arabe. Il y a une quantité de luttes sociales qui se sont déroulées comme ça. Et puis, il y a une façon obscure qui nous est sautée aux yeux avec l'élection de Donald Trump, le Brexit, Bolsonaro, qui est le fait de tirer parti d'un transfert d'influence qui sont déplacés ces dernières années des contenus vers la distribution des contenus. Mmh. Et en fait, les contenus n'ont plus grande influence, les médias n'ont plus grande influence parce que c'est arrivé des nouveaux intermédiaires qui vont distribuer les contenus et ces intermédiaires peuvent être extrêmement sophistiquée, c'est le cas de Facebook, où avec Cambridge Analytica, on a bien vu qu'il y avait une algorithmie extrêmement complexe, avec en plus des gens comme Palantir derrière, destinée à vraiment influencer la psychologie de chacun et faire basculer les votes sur un candidat ou sur de l'abstention, à très grande échelle. Et puis, on a des initiatives beaucoup plus low-tech. Je sors systématiquement l'exemple de Français de souche, qui est un blog qui appartient à ce qu'on appelle la fachosphère. Et je suis pas du tout convaincu de la pertinence de CERM, mais qui est un blog avec une très haute fréquentation, qui se contente de faire en fait une revue de presse. Et typiquement, c'est un webmaster qui va prendre un article de Libération, qui va par exemple inciter les lecteurs de Libération à être solidaires avec les migrants, et qui va le donner en pâture à des gens qui évidemment sont radicalement contre les migrants. Et va se servir du contenu de Libération en maîtrisant sa distribution pour galvaniser une foule de gens qui sont plutôt d'une tendance identitaire. Donc on voit bien que l'influence de Libération, c'est même pas qu'elle est nulle dans ce cas de figure, elle est négative. Libération sert à dynamiser, galvaniser, fédérer un mouvement identitaire. C'est un fail absolu pour Libération, mais pour l'ensemble de la presse, c'est révélateur que l'influence ne se situe plus dans la rédaction des contenus.
C'est hyper intéressant, mais alors du coup, quand tu dis c'est pas forcément le bon terme facho, pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est quand même, enfin, Français de souche, en l'occurrence, c'est assez connu pour être...
Alors c'est identitaire, et à force de... Français de souche, c'est vraiment le mouvement identitaire, et à force de tout classer sous l'étiquette facho, on se retrouve dans la situation actuelle, c'est qu'il y a une très large majorité de fachos en France, et qu'aujourd'hui, tout opposant au gouvernement actuel, c'est-à-dire grosso modo à quelque chose qui va du centre-gauche au centre-droit, tout ce qui est en dehors de ces clous-là, est labellisé facho. C'est un problème parce qu'ils sont majoritaires. Donc si on reste en démocratie, on sait où ça va nous mener. Et par ailleurs, ça ne permet pas de saisir le problème. Vu qu'on va mettre indifféremment dans le même camp des gens qui sont des racialistes d'extrême gauche, des identitaires d'extrême droite, des anti-sionistes d'extrême droite ou d'extrême gauche, et tout ça va être rassemblé sous l'étiquette facho. La réalité, c'est que depuis maintenant une génération, moi je date ça du triste épisode de Le Pen qui a qualifié les chambres à gaz de détails de l'histoire, Le Pen et puis ensuite Dieudonné et tout un tas de monde ont été censurés dans les médias. On s'en portait très bien, enfin qu'on faisait partie de l'autre bord à l'époque, parce que fondamentalement, si on y réfléchit un peu, depuis les années 80, on a tout géré par la censure. Le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie, tout ça se passait par des lois de censure qui interdisaient aux intermédiaires, aux producteurs de contenu de produire de tels contenus, et à l'époque les producteurs de contenu étaient les distributeurs, donc c'était cohérent. Depuis, les réseaux sociaux sont arrivés, les producteurs de contenu c'est tout le monde et n'importe qui, dont les médias mais pas que, et les distributeurs de contenu c'est des algorithmes extrêmement sophistiqués qu'on peut qui plus est acheter ou influencer. Donc l'équation est devenue infiniment plus complexe et c'est très difficile de prétendre aujourd'hui que les opinions politiques en France sont représentées par ce qu'on en voit dans les médias. En réalité, on a un tout petit spectre des opinions politiques qui ont lieu en France, qui sont représentées par les médias. L'essentiel n'est pas représenté par les médias. Donc l'essentiel va s'informer ailleurs et regarde les médias d'un air un peu dubitatif, parce qu'elle ne trouve pas le reflet de son expression politique.
Et du coup, pour toi, les réseaux sociaux sont vraiment l'endroit où les gens s'informent?
Alors la moitié des Français ou des Américains ou de tout un tas de monde s'informent uniquement à travers Facebook, pour ne pas le nommer, plus que les réseaux sociaux, c'est-à-dire que le choix éditorial, l'équivalent de ce qui se passe dans un comité de rédaction, où on va choisir de traiter tel sujet, et qui est essentiel pour donner une vision globale du monde ou d'un problème, ce choix éditorial-là va être fait par de l'algorithmie et son inscription dans un réseau social et l'éventuel sponsoring de contenu par des gens qui ne sont pas forcément très bien identifiés. Et ça change absolument tout, absolument tout.
Et ce qu'on disait ensemble tout à l'heure en préparant, c'est qu'en même temps, Facebook ne peut pas vraiment être démantelé parce que les États en ont besoin pour surveiller les gens.
Alors Facebook ne peut pas être démantelé pour une myriade de raisons. D'abord, ce n'est pas la Bels, donc on peut pas le découper en morceaux. Autant Google pourrait être découpé en morceaux avec le search d'un côté, d'autres activités de l'autre, mais ça ne résoudrait pas forcément le problème du monopole du search. Mais Facebook, on ne peut pas le découper en morceaux. L'autre problème, c'est que Facebook, on le sait depuis Snowden, et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire publiquement sans se faire traiter de complotiste. Facebook travaille avec la NSA, comme les GAFA. Ça a été prouvé dans les tout premiers pas de l'affaire Snowden et gentiment oublié par la suite. Et donc, fondamentalement, c'est un outil de surveillance qui est avant tout au service de l'État américain et de ses proches alliés. Les proches alliés, ça commence par les fameux Five Eyes, qui sont cette alliance qu'on a connue dans un premier temps sous le nom de réseau échelon de pays anglo-saxons, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Angleterre et États-Unis. Et c'est son premier cercle, et on fait partie du premier cercle en tant que France. Donc c'est un outil de surveillance, mais c'est à double tranchant. C'est pas un outil qu'on peut censurer, on n'en est pas là en France. On imagine mal l'État français censurer Facebook, et on sait pas demain la veille. En tout cas, je pense pas que ça sera sous ce quinquennat, sauf en cas d'urgence absolue, ce qui est pas invraisemblable si les gilets jaunes dégénèrent. Mais quelque part, l'État français se retrouve le cul entre deux chaises, pour ainsi dire. D'un côté, Facebook est un outil de surveillance qui doit lui permettre, s'il a bien négocié ses accords avec les États-Unis, d'avoir quand même un regard sur ce qui se passe et une vraie capacité d'investigation dans tout un tas d'enquêtes qui sont parfaitement légitimes. De l'autre côté, ben c'est un outil qui peut être utilisé pour provoquer une révolution. Ça serait pas la première fois. En 2011, il y a deux chefs d'État qui ont été renversés par Facebook. Alors, on aura vite fait de dire que c'était d'affreuses dictatures, même si on s'est empressé d'en remplacer immédiatement l'une, et de la remettre en place. Mais malgré tout, rien ne dit que ça ne puisse pas faire la même chose dans un pays démocratique. Pour l'instant, on a vu un pouvoir se faire, pas renverser, mais élire grâce à une grosse manipulation sur Facebook, dont on ne connaît pas exactement l'impact, mais malgré tout, vu le track record de Cambridge Analytica, on aurait tort de le balayer d'un revers de la main. Mais on n'a pas encore vu un régime démocratique renversé par une action de lutte sociale générée par la base via Facebook, comme on l'a vu typiquement en Tunisie.
Et avec sur un autre épisode de podcast avec Mickaël, on parlait du communautarisme qui était extrêmement développé en France. Les Gilets jaunes, c'est vrai qu'on a tendance à entendre dans les médias ou à voir que c'est très facho ou en tout cas lié à l'extrême droite.
Les médias ne peuvent pas aborder les gilets jaunes. Il faut commencer par la base. On a à faire un mouvement grassroots. On a à faire un mouvement. On est sur des choses qui sont très proches des logiques d'Anonymous. Un mouvement grassroots, un mouvement dont la proposition d'action ne vient pas du sommet, mais émane de la base et ensuite, si elle est adoptée par un nombre suffisamment grand, prend forme. Et c'est exactement les modalités d'action des gilets jaunes. Hein. On se réunit sur tel point, tel rond-point. Bah, si le mec se retrouve seul à son rond-point, c'est que il a pas eu le savoir-faire pour fédérer, et s'il se retrouve à 200, c'est que il avait le savoir-faire pour fédérer, ou qu'il a fait une proposition d'action qui fédérait bien et qui a réuni. Typiquement, j'ai amené des merguez, je ne sais pas, c'est tout est possible. Et ce à quoi on a assisté, c'est dans un premier temps 2000 initiatives relativement isolées qui ont constitué 2000 petits groupes dont certains ont perduré dans la semaine, dont certains sont radicalisés mais pas d'autres, et une presse qui ne comprend pas qu'elle n'a pas affaire à un mouvement. C'est pas un mouvement, c'est 2000 mouvements, c'est pareil. Donc vous pouvez tendre le micro à n'importe qui, vous aurez n'importe quoi. Donc pas mal de choses qui reflètent une vraie réalité. Mais personne ne peut dans un tel mouvement s'adresser en tant que porte-parole. Et d'ailleurs les porte-paroles autodésignées se font rapidement remettre à leur place par le reste du groupe. Mais ça pose tout un tas de problèmes en termes de lutte sociale. Typiquement, vous n'avez pas d'interface de négociation. Il n'y a pas de revendication claire. Donc aujourd'hui, si on veut par exemple céder aux gilets jaunes, ce qui est a priori pas dans les plans du gouvernement, mais si ça devenait une hypothèse, on ne sait pas quoi céder. Et il apparaît de plus en plus évident que si on retirait les taxes sur le carburant, par exemple, c'est loin d'être évident que ça assèche le mouvement. Donc on est sur ces nouvelles formes de contestation sociale qui n'ont pas intégré dans leur génome la capacité ou la volonté de négocier avec qui que ce soit. Ils sont juste là pour s'opposer.
Et tu penses que typiquement un mouvement comme les Gilets jaunes, c'est quelque chose qui est lié, qui n'aurait pas pu exister sans la technologie?
Ah bah oui, ça, les Gilets jaunes, ça s'appuie sur deux technos. La première s'appelle Google Maps, la deuxième c'est la fonctionnalité groupe de Facebook. Sans ça, il n'y a pas le Gilet jaune, il n'y a pas de capacité à fédérer, il n'y a pas de capacité à organiser, et à organiser pas, encore une fois, pas top to bottom, hein, à organiser bottom to, pas top vu qu'il n'y a pas de top, donc c'est bottom to bottom. Donc sans technologie, il ne peut pas y avoir de Gilet jaune, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il y a tout un ensemble de choses que la société française a beaucoup de mal à remettre en question qui ont donné naissance à la possibilité des Gilets jaunes. La disparition des corps intermédiaires, la chute dramatique de crédibilité et de confiance envers toute forme de corps intermédiaires, que ce soit le politique, le syndicalisme, le parti politique, tout ça n'a plus la moindre crédibilité. Et les principales instances qui structure la Ve République, la présidence, le Parlement, ce genre de choses, n'ont plus la moindre crédibilité. Donc forcément, on a affaire à une population qui souffre et qui n'a pas d'intermédiation pour exprimer sa souffrance. Et en plus, dans les Gilets jaunes, qui de toute façon n'en a pas. C'est des gens qui vivent dans des zones dans lesquelles, en dehors pour certaines zones du Front National, il n'y a pas d'intermédiation pour porter des revendications. Et on aurait tort d'assimiler les Gilets jaunes au Front National, parce que même si ça correspond à des zones d'implantation électorale du Front National, ça va bien au-delà. Et pour l'instant, les incidents qu'on peut attribuer à une idéologie issue du Front National sont très éparses. Hein. 2000 manifestations, on compte sur les doigts de la main les incidents racistes. On peut considérer pour l'instant que ça n'est pas caractéristique du mouvement. Alors évidemment, on peut aussi instrumentaliser ça de façon... Mais ça ne marche pas. Ça, c'est un gros problème, c'est que la popularité du mouvement n'a pas faibli, malgré pas mal de buzz autour d'incidents racistes, typiquement.
Et ce que tu me disais, malgré tout, c'est qu'il y a... Quand on regarde les photos des manifestations, il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'arabe.
Ouais. Ah ouais, ça c'est assez fascinant. Les Gilets jaunes sont un mouvement qui vient de territoires dans lesquels l'essence représente un poste de coût important. Et le diesel particulièrement. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ces territoires? D'abord des pauvres, hein, parce que les riches roulent rarement au diesel, même s'il y a certainement des très belles bagnoles, mais malgré tout c'est pas, on va beaucoup de plus trouver de pauvres qui roulent au diesel que de riches. Des pauvres à qui on a menti durant des décennies en leur expliquant que le diesel c'était propre et que c'était économique et que c'était un très bon investissement, parce que même s'ils payaient leur voiture un peu plus cher, ils allaient l'amortir, et qui ont cru. Au passage, les responsables de ce mensonge n'ont jamais été inquiétés. Et à côté de ça, ils se situent dans des zones qui ne sont ni des cités, ni des grandes villes. Or, très concrètement, dans ces zones, on ne trouve pas de Noirs et d'Arabes. Ça correspond à ce que le vocabulaire du FN a appelé la France périphérique, mais pas que, j'insiste là-dessus, il n'y a pas que la France périphérique qui dans laquelle on trouve des gilets jaunes, mais l'essentiel de la France périphérique est concerné par ce mouvement. Dans les cités, bah, y a des transports en commun, et du coup la dépendance au gazole n'est pas si forte que ça. Donc ça n'a pas déclenché quoi que ce soit dans les cités. Et puis évidemment, dans les grandes villes où nous on habite, moi j'ai plus de bagnole depuis 15 ans, donc l'augmentation, je suis incapable de vous donner le prix du litre de super ou de diesel, au même titre qu'un politique ne sait pas vous donner le prix d'un ticket de métro. J'en connais absolument rien.
Ouais, c'est sûr. Et du coup, pour toi, ce mouvement, ça dit quoi de la France, en fait? Pas tant de la technologie, mais vraiment de la France.
Ça dit de la France qu'on est arrivé au bout du bout dans la perte de légitimité de ce qui structure notre gouvernance. Les syndicats, les partis, les institutions de la Ve République, tout ça n'est plus légitime aux yeux d'une population qui est de plus en plus majoritaire. Donc ça pose un vrai problème de gouvernance, et puis ça pose un casse-tête qui est insoluble. On est dans la situation d'une poule avec son couteau. Il n'y a pas de négociation possible avec les Gilets jaunes, c'est pas pensé pour ça.
Donc, et pourtant, est-ce que c'est pas l'expression de personnes qui font société, qui représentent la société française?
Non, je crois pas qu'on puisse à ce stade dire que c'est des personnes qui font société. Il n'y a pas de projet commun, il n'y a pas... La seule caractéristique commune qu'on peut pour l'instant voir, c'est le fait que, on va dire, la diversité est totalement absente. C'est pas quelque chose qui a été relevé parce que c'est un sujet tabou en France. Et derrière, ça pointe le doigt sur l'extrême uniformité ethnique du territoire, de l'occupation du territoire. Ce qui est un sujet extrêmement tabou en France, qui malgré tout est au cœur de toutes les conversations dans une partie grandissante de la nation française, et qu'il va falloir regarder en face un jour ou l'autre, mais aujourd'hui on ne peut pas se saisir du problème vu que les statistiques ethniques sont interdites. Donc ça pointe ce problème-là, qui de toute façon aujourd'hui n'est pas traitable. Il ne pourra être traité que dans un futur plus ou moins lointain, dans lequel ce genre de sujet sera... débattable, et ça risque d'être très 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 douloureux pour les gens qui jusqu'ici tenaient la trajet haute, dont je fais totalement partie, depuis grosso modo la première génération Mitterrand. On a censuré plein de sujets, et on se retrouve aujourd'hui avec une population dont l'essentiel des préoccupations sont censurées, et donc ne peuvent pas se refléter dans les médias, d'où cette haine vis-à-vis des journalistes. Ça reflète la fin d'une ère, très concrètement. La société française ne pourra plus durer longtemps comme ça, en se basant sur une censure, alors qu'elle est noyée dans de la technologie qui n'a jamais prévu la censure. Enfin, il n'y a pas de censure envisageable sur Facebook. Ça a été pondu par des Américains qui vivent à cheval sur deux principes de base. Le premier, c'est la liberté d'expression absolue. Le deuxième, c'est le communautarisme, qu'on appelle là-bas le melting pot. Donc forcément, c'est au cœur de Facebook, ces deux concepts. Et on les a importés dans une myriade de pays. En Tunisie, ça a fait s'effondrer la gouvernance. En France, c'est ce qui est très concrètement en train de se passer. Elle s'effondrera pas parce qu'elle est beaucoup plus solide. Mais elle va aller très rapidement dans un monde dans lequel elle n'aura pas la moindre légitimité en dehors des traditionnels 20% qui sont anti-gilets jaunes et qui sont ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron.
Mmh. Et alors du coup, pour toi, c'est... Alors, on pourrait parler de tout ce qu'on essaie de cacher, ou en tout cas de... Pas ce qu'on essaie
non,
de cacher.
Non, c'est casse-gueule.
C'est pas qu'on essaie de cacher. C'est
d'abord,
plutôt...
on pourrait pas. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Ensuite, on serait pas nécessairement légitime, parce qu'objectivement, on a passé l'essentiel de notre vie de l'autre côté, aux côtés de ceux qui censuraient ces contenus, et il faut être très honnête, assez confortable avec cette censure et pas trop choqué, même si, malgré tout, on a l'un et l'autre pu participer à des expériences qui permettaient de soulever un peu le voile. Mais malgré tout, on n'a pas la légitimité pour parler de ça.
De ce qui est censuré aujourd'hui ?
Ben oui. On fait partie d'un groupe, au sens large, qui a censuré tout ça. Et tout d'un coup, tu veux apparaître comme la personne qui va soulever le couvercle. C'est pas, on n'est pas légitime pour faire ça. C'est, au mieux, on sera encore là pour avoir notre mot à dire.
Et alors, c'est quoi la... Enfin, il y a plusieurs questions. Il y a la première, c'est quoi l'avenir ? Enfin, c'est quoi l'avenir ? En tout cas, vers quoi va la société française, selon toi ?
Alors, la propagande actuelle consiste à placer deux camps, les progressistes et les populistes. Et ça va probablement évoluer. Il y a une intervention de Macron auprès de maires de France hier, où finalement il s'approprie le terme populiste. Donc je pense qu'on est encore, on n'a pas encore vu la totalité du glissement sémantique. Mais tel que c'est présenté là, c'est parallèle avec les années 30, populiste d'un côté, progressiste de l'autre, et grosso modo, soit tu choisis le camp des progressistes pro-européens et tu auras la paix, soit tu choisis le camp des populistes et tu auras la guerre. J'ai du mal à m'imaginer faire la guerre avec les Allemands, je sais pas pourquoi, mais ça me paraît invraisemblable, pas plus qu'avec les Italiens ou les Espagnols. Donc la comparaison avec les années 30, à mon sens, est de l'ordre de la propagande. Je suis plus... sur une comparaison avec une espèce de mai 80 inversé. En mai 80, alors pour les plus anciens qui s'en souviennent, on sortait d'une époque Giscard, qui elle-même faisait suite à une époque mai 68 qui avait soulevé beaucoup d'espoir. Et tout d'un coup, on a Mitterrand qui arrive et qui va soulever une chape de plomb. Qui paralysait tout, absolument tout en France, à commencer par les médias. Il a libéralisé les médias. Tout d'un coup, on a pu entendre tout un tas de choses différentes qu'on n'entendait pas avant. On a pu reconnaître certaines communautés qui étaient niées. Je pense en particulier à la communauté homosexuelle. Le destin de la France a été quand même radicalement changé. La culture a radicalement changé. La politique a pas mal évolué. Les sujets de société ont énormément évolué. Regardez dans des archives YouTube les débats de société qu'il y avait sur les émissions de Michel Pollack. C'est incroyable. Aujourd'hui, ça serait invraisemblable. Et puis, petit à petit, ça s'est replié. On a commencé à censurer tout. Je vais pas dire n'importe quoi, parce que c'est légitime de vouloir lutter contre le sexisme, l'homophobie, l'antisémitisme, le racisme, etc. Mais l'extrême censure n'était absolument pas la bonne solution. Ça l'était dans les années 80, ça l'était dans les années 90. En tout cas, c'était une solution efficace. Mais très concrètement, on a confondu la victoire sur le racisme avec la disparition de l'expression raciste. C'est pas la même chose. Et évidemment, dès que Facebook, Twitter sont arrivés, on a bien été obligé de réaliser que c'était juste une censure et qu'on n'avait absolument pas traité le problème. Et par ailleurs, on fait aujourd'hui face à un autre problème qui, là, pour le coup, est mortifère pour le camp des progressistes, qui est que, très concrètement, en tant que progressiste, mon opinion, elle est représentée à la télé tous les jours, à la radio tous les matins. Elle est là en permanence et elle est considérée comme la bonne opinion, celle qu'il faut avoir. Si je suis populiste, je déteste ces terminologies, mais malgré tout, et de toute évidence, si on en croit le soutien des Gilets jaunes, ça représente la majorité de la France, même si une large partie d'entre eux n'iront pas jusqu'à y consacrer leur bulletin de vote, mais... Une large partie de la France, de toute évidence, aujourd'hui soutient un mouvement qui est qualifié de populiste par le gouvernement en place. Si on est populiste, si on est électeur de Jean-Marie Le Pen dans la fin des années 90, ou fan de Dieudonné, ou etc., il y a une quantité invraisemblable de gens comme ça qui ont été censurés, on s'est réfugié dès la fin des années 90 sur, non pas les réseaux sociaux, ils n'étaient pas encore là, mais sur Internet. Et ils ont commencé, dès la fin des années 90, à avoir leurs journaux sur Internet, leurs médias sur Internet, leurs organisations sur Internet, leur savoir-faire dialectique sur Internet. Là-dessus, le Web 2 est arrivé, les blogs, ils se sont appropriés. Après, les réseaux sociaux, ils se sont appropriés. Donc, où est-ce qu'on en est en 2018? On a une génération d'écart entre les populistes, qui aujourd'hui, pour ce qui est des plus jeunes, ont appris leur savoir-faire dialectique sur Facebook, de leurs parents, et les progressistes, qui sont soit des vieux qui n'ont jamais considéré Facebook comme quelque chose d'important. Je me souviens, le lendemain des révolutions arabes, tout le monde se foutait de ma gueule quand j'expliquais que Facebook était l'équivalent de la K47 contemporaine. Et qui aujourd'hui s'aperçoivent, notamment avec l'élection de Trump, que c'est très 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 important, et se retrouvent avec un outil qu'ils ne comprennent pas, avec des méthodes dialectiques qu'ils ne comprennent pas, et ça tourne au ridicule. Je pense à Agnès Buzyn, typiquement, qui faisait une espèce de petit selfie filmé avec son téléphone en tremblotant avec un cadre pourri, et qui n'arrivait même pas à la maîtrise de ce mode d'interaction sociale assez con qui consiste à se filmer pour un court message, on va dire un mode à la Snapchat. Et la ministre qui singe Madame Michu du fin fond de la France, qui a fait des millions de hits sur son petit truc, et qui non seulement a fait 2 000 vues, mais est parfaitement ridicule. Donc on a vraiment tout un camp progressiste qui ne sait pas utiliser les médias sociaux. La campagne de Macron sur les médias sociaux était... mais ridicule. Ça consistait à copier-coller des messages par tout un tas de gens dont l'expression politique se résumait à copier-coller les messages de Macron. C'est étrange quand même.
Et alors du coup, c'est quoi un mai 80 inversé ?
Un mai 80 inversé, ça va être la victoire de ce qu'on appelle les populistes. J'ai du mal à imaginer Le Pen gagner ou Mélenchon gagner. Je pense plus qu'on aura un truc qui sera de l'ordre de l'apparition d'une personnalité ou d'un groupe de personnalités qui installeront quelque chose qui sera plus proche que de l'Italie, par exemple. C'est-à-dire une alliance entre ce qui aujourd'hui est identifié comme l'extrême droite et l'extrême gauche, qui sont des termes qui ne veulent plus dire grand-chose, tout comme gauche et droite ne veulent plus dire grand-chose, et qui prendront les rênes du gouvernement, probablement en se dispersant des postes, comme en 80, il y avait des communistes au gouvernement en 80, on l'a oublié, mais... et on va avoir une répartition des postes, à mon sens, assez similaire à l'Italie, et un changement radical de la culture, du journalisme, de l'information.
Et en même temps, tu me disais que avec un petit budget, on pourrait véroler le mouvement des Gilets jaunes sur Facebook.
On peut tout faire avec des petits budgets. C'est pas très cher Facebook, comme tu le sais. Hein.
Ouais, je sais bien.
On a aussi un pied dans le marketing. Et j'avais fait un thread hier où j'expliquais comment pourrir un mouvement ou au contraire lui mettre le feu.
Qui n'est pas un mouvement d'ailleurs.
Qui n'est pas un mouvement d'ailleurs. Et, oui, petite précision, les Gilets jaunes ne sont pas un mouvement. Anonymous n'est pas un mouvement. Anonymous, c'est si vous voulez trouver un synonyme dans un vocabulaire 20e siècle, c'est plutôt le syndicalisme. Donc quand vous voulez interviewer Anonymous, je dis ça à l'intention des journalistes, c'est à peu près aussi stupide que si vous vouliez interviewer le syndicalisme. Et c'est la même chose pour les Gilets jaunes. La presse ne sait pas faire autre chose que trouver un représentant et avoir un porte-parole. Et ça demande un travail journalistique conséquent, à commencer par comprendre ce à quoi on a affaire.
Et donc pour véroler,
je vous propose un petit jeu très très simple. On va contracter le temps. On est en France, comme dans beaucoup de démocraties, dans une logique de la grenouille dans la casserole d'eau froide sur le feu. C'est-à-dire qu'on fait chauffer le feu petit à petit et la grenouille ne sent rien et du coup finit cuite. Ça fait plus de 10 ans que les libertés individuelles reculent les unes après les autres, les libertés sur Internet reculent les unes après les autres, les libertés en général reculent après les autres. L'état d'urgence a été carrément intégré dans la Constitution et le Code civil. Donc on est en état d'urgence permanent. Il y a une régression démocratique indéniable que reconnaissent toutes les ONG. Donc on est dans cet effet de casserole qui petit à petit bout. Il y a un moment, soit la grenouille saute parce qu'elle s'aperçoit qu'elle est en train de cramer, soit tu donnes un petit coup de feu sur la casserole de façon à ce que la grenouille s'aperçoive qu'il y a un problème. Alors donner un petit coup de feu, c'est très simple. Les Gilets jaunes, vous avez une superbe Google Map qui vous géolocalise très précisément où sont tous les points de rendez-vous. Vous avez des géographes qui ont fait des très jolies cartes qui vous montrent les endroits où vraiment c'est le plus actif. Eh ben, vous avez Facebook et Google qui vous permettent de géotargeter très précisément ces endroits. Vous n'allez pas faire énormément de hits parce que vous allez limiter à 2-3 communes dans le fin fond du truc de la France, mais vous allez faire 100% de hits pertinents sur des gens qui sont concernés par le problème et qui le voient tous les matins en sortant de leur garage sur le rond-point au coin de la rue. Et à partir de là, vous allez contracter le temps. Vous allez prendre toutes les informations sur, sur une problématique de taxes, tout ce qui vous pouvez considérer à juste titre comme de l'injustice fiscale. Je prenais l'exemple hier de l'exonération de CSG des frais parlementaires. Effectivement, quand on vote soi-même la loi, autant s'exonérer d'impôts. C'est pas idiot. Et des trucs comme ça, on peut en trouver 13 à la douzaine. Vous prenez tous ces liens et vous les sponsorisez et vous les géolocalisez dans les endroits où les gilets jaunes sont les plus actifs. Vous allez créer un effet de saturation face à des informations qui vont les scandaliser les unes après les autres et forcément, vous allez mettre les feux aux poudres. Et au passage, je n'ai pas utilisé une seule fake news pour faire cette opération. Et c'est l'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se focalise sur les fake news, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est la distribution.
Ouais, la distribution et le message que tu passes derrière, bien sûr. À qui tu le distribues ?
À qui je distribue. À qui je distribue.
Hyper intéressant. Et alors, du coup, ce podcast s'appelle Vlan. À quoi ou à qui tu voudrais claquer la porte aujourd'hui?
Moi, ce qui m'agace et qui a deux doigts de m'énerver, c'est l'incapacité du vieux monde, parce que le nouveau monde, plus personne n'y croit, hein, de se remettre en question. Tout le monde peut s'apercevoir qu'il y a un énorme problème, qu'on est au bord d'une ligne de fracture, mais il n'y a pas nécessairement de remise en question. C'est ça qui nécessairement va alimenter le camp d'en face dans sa haine et sa hargne et sa volonté de détruire le système. Il n'y a aucune remise en question chez les journalistes, il n'y a aucune remise en question chez les politiques. Il y a dans le corps enseignant non plus, il y a aucun des corps de métier qui a constitué le système qui est sur le point de s'effondrer aujourd'hui, qui est en mesure de se remettre en question. Et à mon sens, il y en a deux qui doivent impérativement se remettre en question, sinon ils vont terminer sur l'échafaud. C'est les journalistes et les politiques. Et c'est impératif. Typiquement, on parlait de Thinkerview tout à l'heure en coulisses. Thinkerview, ils sont allés dans un grand festival du journalisme et ils ont essayer de titiller les journalistes qui étaient autour d'eux en leur demandant si ils connaissaient les accords de, je crois c'est Munich, non c'est pas Munich, c'est, enfin il y a une charte internationale du journalisme qui pose des règles d'éthique dont le nom m'échappe à l'instant, et personne ne la connaissait, absolument personne ne la connaissait. C'est-à-dire qu'on a un corps journalistique qui, comme le corps politique, fonctionne en roue libre, n'a pas d'organe de gouvernance, n'est pas sanctionné en cas de problème, et forcément un corps qu'on laisse en roue libre sans risque de sanction quoi qu'il fasse, bah, ça provoque des dérives, c'est normal, c'est absolument normal. Vous prenez n'importe quel corps de métier, vous le mettez dans ce cadre-là. Imaginez les experts comptables, tout d'un coup vous n'avez plus d'ordre des experts comptables, et si un expert comptable fait une énorme connerie, il n'est pas sanctionné, il peut exercer librement, bah, vous imaginez la comptabilité des entreprises françaises. Hein. On va vite se retrouver dans des situations...
Et pour toi, la solution, du coup, ça serait quoi? Parce qu'en fait, puisque c'est plein de communautés différentes avec des besoins, des demandes différentes.
Et on est face à une France qui est structurée en communauté et depuis un bout de temps. On a regroupé par ethnie, grâce à des logiciels de Big Data, en l'occurrence Paliant, les ethnies dans les banlieues. On a des trucs extrêmement homogènes dans les banlieues et on est en train de s'en apercevoir avec les gilets jaunes dans les provinces aussi. Donc cette fameuse mixité sociale qui est un mot à la con, qui cache une réalité qui est la non-mixité ethnique, elle nous saute à la gueule. Mais la réalité, c'est que la société française est organisée en communauté. Donc ce discours politique qui consiste à dire, à nier totalement cette dimension des choses et cette structuration communautaire qui a été mise en place au niveau local, notamment les collectivités locales, souvent pas pour des raisons de racisme, hein, plus pour des raisons de tranquillité publique, de maintien de l'ordre, elle nous saute à la gueule aujourd'hui, et soit on la regarde en face, soit on continue de la nier, et si on continue à la nier, elle va assez légitimement revendiquer des droits en tant que communauté. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le racialisme, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec une myriade de communautés qui revendiquent des droits, et là, il y a une faille au sens presque informatique du terme. C'est qu'à partir du moment où vous avez une société qui est structurée en communauté face à une gouvernance qui refuse de l'aborder, vous pouvez alimenter ces différentes communautés et les radicaliser. C'est exactement le schéma qui a été fait aux États-Unis à travers l'intervention de différents pays étrangers dans la campagne américaine. Ils infiltraient des communautés et les radicalisaient. Et c'est très facile à faire. Très très facile à faire. Aujourd'hui en France, il y a de plus en plus de communautés qui se radicalisent. On a les véganes qui deviennent tout d'un coup, qui ont défoncé des boucheries. Non pas qu'ils soulèvent pas un problème important, mais leur mode d'action s'est radicalisé. Il en est de même pour les communautés LGBT, qui aujourd'hui, il y a deux, trois lettres que j'oublie derrière LGBT, qui du coup font scission avec d'autres communautés LGBT. Donc, on avait une communauté qui était relativement unifiée, qui aujourd'hui est en train de partir en mille morceaux. Et toutes les communautés sont en train de faire ça, absolument toutes. En grande partie parce que on navigue tous avec des outils, en l'occurrence Facebook, qui nous incitent à nous regrouper par communauté, qui nous incitent à déléguer à une communauté l'approvisionnement en information et donc la vision du monde. Et donc on est dans un cercle vicieux ou vertueux, ça dépend de quel côté on se situe, qui va faire que notre société, qu'on le veuille ou non, est une société communautariste. Et notre système politique, la Ve République et toutes les politiques, on va dire, avec un potentiel de gouvernement, sont sur cette négation absolue d'une réalité bien française. La première chose à faire, à mon sens, c'est de regarder ça en face. Mais c'est très, très problématique, extrêmement problématique. Parce qu'on va nécessairement en arriver aux statistiques ethniques, à la découverte de tout un tas de choses qu'on n'a absolument pas envie de voir. Du coup, dans une logique républicaine, à compenser les inégalités par machin. Alors, on sait comment compenser les inégalités sociales. C'est très prétentieux. Mais on s'est jamais attaqué aux inégalités ethniques. Le jour où on les aura sous les yeux, on va se retrouver vraiment, vraiment dans la merde.
Ok. Sur ce dernier mot, merci beaucoup Fabrice.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.